Radio Kapi. Oh, Kapi.
Sami RDC déterminé à neutraliser les forces négatives et les groupes armés illégaux dans l'est de la RDC afin de restaurer et de maintenir la paix et la sécurité. C'est ce que déclare le commandant de la force de la SADC en RDC. Vous l'entendrez à l'ouverture de ce journal. La population congolaise vit dans la forêt et se nourrit de la forêt. Ainsi, elle a besoin de transferts de connaissances pour mener à bien son rôle de préservation de la faune et de la flore ainsi que des réserves halieutiques. Propos de la ministre d'État en charge de l'environnement vendredi à New York devant les représentants des 178 États et organisations membres du Forum des Nations Unies sur les forêts. La Société nationale d'électricité SNEL au Kassai Oriental commercialise désormais l'énergie électrique de la centrale hydroélectrique de Toubi-Toubidi, construite par la société Anui d'investissement minier qui exploite le diamant dans la localité de Boya, territoire de Miabi. Pour en parler, nous recevons un invité, Jean-Crispin Mukendi, le directeur provincial de la SNEL. À toutes et à tous, bonjour. Grâce à Hamza Timasanzi est à la présentation. Conformément au mandat de Sami RDC, en coopération avec l'FRDC, Sami RDC mènera des opérations pour neutraliser les forces négatives et les groupes armés illégaux dans l'est de la RDC afin de restaurer et de maintenir la paix et la sécurité, de créer un environnement sûr et de protéger les civils et leurs biens en cas de menaces et d'attaques imminentes. Cette déclaration du commandant de la force de la SADC en RDC est contenue dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Le général-major Momnoabisi Diakopou y affirme que les opérations visent à ouvrir les voies d'approvisionnement et à faire en sorte que les civils soient à l'abri des intimidations, des déplacements et des meurtres afin que les communautés puissent mener leur vie quotidienne sans interférence ni menace. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Rung.
During the operations, Sami DRC complies with the human rights aspect.
Au cours des opérations, Sami RDC respecte les aspects relatifs aux droits de l'homme ainsi que les dispositions du droit des conflits armés en vertu du droit international humanitaire. En outre, la mission opère selon les règles d'engagement de Sami RDC édictées par le président du dit organe. Ces règles d'engagement imposent au personnel militaire de la mission de respecter les lois internationales, en particulier les lois sur les conflits armés et les lois de la République démocratique du Congo. En outre, Sami RDC coopère avec divers acteurs humanitaires pour améliorer la situation humanitaire et sécuritaire en RDC. Sami RDC s'engage pour la paix et la sécurité en RDC et continuera à soutenir et à collaborer avec l'armée nationale de la RDC dans la lutte contre les forces négatives et les groupes armés illégaux.
Pendant ce temps au Nord Kivu, des milliers de déplacés vivent une situation humanitaire catastrophique dans le site des Roussayo 3. Depuis 3 mois qu'ils occupent ces sites, nombreux n'ont reçu aucune assistance alimentaire. Les personnes âgées, particulièrement vulnérables, sont les plus durement touchées par cette famine. Sans force pour chercher de la nourriture, elles tentent de survivre, mais la situation est intenable. Des cas de décès liés à la faim sont déjà enregistrés dans le site. Rosalie Zawadi a rencontré des personnes âgées qui partagent leur calvaire.
J'ai vraiment faim, dit d'une voix faible Siapata Mwavita, âgé de plus de 70 ans. En ce début d'après-midi, il est allongé sur des sacs devant sa petite tente. Elle se relève pour expliquer que la veille, elle n'a eu pour nourriture qu'une seule patate douce. Son voisin, Nganahandi Muramira, 75 ans, venu des Chacha, a appris dans ses sites de Roussayo 3 à manger les foufous sans sauce ni légumes. Encore faut-il en trouver.
Nous ne mangeons pas pendant la journée. Nous ne mangeons qu'une fois la nuit. Par exemple, hier, j'ai eu 1000 francs congolais. J'ai acheté un peu de farine de maïs et j'ai fait les foufous. J'ai mangé ces foufous comme ça, sans accompagnement. Des fois, lorsque je trouve un peu de légumes, comme les feuilles des haricots, je peux manger les foufous avec. Sinon, je prends les foufous seuls.
Les chefs du bloc 110 où vivent ces personnes âgées lancent un appel urgent à l'aide. Baibongendo Olejon explique qu'il essaye de partager les peu qu'il trouve avec ces personnes âgées. Il implore le gouvernement de venir en aide aux déplacés de ces sites pour mettre fin à cette famine criante. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
signalant que l'enterrement des victimes des derniers bombardements des rebelles près de Goma prévu pour ce dimanche est reporté au mercredi 15 mai. Selon le gouvernement provincial du Nord Kivu, ce report est dû aux travaux au cimetière de Kibati. Par ailleurs, le collectif d'associations sans but lucratif et ONG des Congolais résidant en Belgique se mobilise pour une action humanitaire de solidarité au profit des déplacés des guerres de Goma au Nord Kivu. Réunis au sein d'une plateforme dénommée SOS RDC pour Goma 2024, ces ONG, dont l'ASPEL Notre Conscience, NOCOS, basée en Belgique, ont récolté de l'argent et autres biens qui sont acheminés pour être distribués aux déplacés des guerres de Goma. C'est une action qui intervient 3 ans après une assistance du genre organisée en faveur des victimes de l'éruption volcanique en 2021. Madame Melissa Zalo, initiatrice et promotrice de l'ASBL Notre Conscience, NOCOS et des SOS RDC pour Goma 2024, nous en parle au micro de Jean-Marc Matoaki.
Il y a encore le problème, il y a encore des urgences au niveau de l'Est. Pourquoi ne pas relancer cette action que nous avons lancée en 2021, raison pour laquelle j'ai appelé les autres associations, parce que seule je ne peux pas. J'ai contacté certaines associations, nous nous sommes mises ensemble effectivement pour lancer cette action que nous avons appelée SOS RD Congo pour Goma 2024. Alors nous avons lancé la collecte des dons, parce que nous avons travaillé en 2 phases. La collecte des dons en nature et les dons financiers. Les dons financiers qui continuent encore parce que nous ne sommes pas encore à Goma, mais les collectes des dons en nature a pris fin le 7 avril 2024. Et grâce à la ville de Bruxelles, notre partenaire qui nous a donné un espace, un grand espace, en tout cas pour procéder à la collecte, dont je salue et je remercie. Je salue la défense belge qui nous aide à acheminer tous ces dons de la Belgique jusqu'à Kinshasa. Et nous avons FOFAT, qui est la fondation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui va nous aider justement en partenariat afin d'acheminer tous ces dons qui arrivent ici à Kinshasa, donc de Kinshasa à Goma.
Et puis, à Beni, au Nord Kivu, le chef d'antenne du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS se félicite du bon déroulement des initiatives pilotes de réinsertion des ex-combattants dans son entité. Selon Omar Kavota, qui l'a dit hier à Beni, ce projet dont le lancement des travaux à haute intensité des mains d'œuvre est intervenu le 5 mars dernier et va s'élargir à d'autres zones de retour des ex-combattants. Au vu de l'évolution actuelle, indique-t-il, 1050 bénéficiaires, dont 350 ex-combattants, seront pris en charge par ces projets. Maître Omar Kavota est joint au téléphone par André Kiting.
Il faut avouer qu'il y a une forte implication et une forte appropriation de ces travaux par la communauté. Au vu de l'évolution actuelle, nous avons espoir que ce projet pilote sera réellement une réussite. Nous devons nous féliciter du fait que les activités relatives au projet pilote d'appui aux initiatives de réinsertion des ex-combattants évoluent bien dans cette zone prioritaire. Parce que après le lancement des travaux IMO au village Mambabwanga, à secteur de Benimbao, le 5 mars, nous avons immédiatement poursuivi avec la même chose à Kabasha, dans le même secteur, puis à commune de Mangina et dans les agglomérations de Mabalako et Kantine. En ville de Beni, nous avons démarré avec les activités dans les communes de Bungulu, Beou, Mulekera et Rwenzori. Cela en attendant la commune de Wicha, la chefferie de Bashu ainsi que les communes de Lume et Boulongo où l'on devra démarrer bientôt. Tous ces milliers sont des zones de retour des ex-combattants et notre projet aussi bien les ex-combattants que le membre de la communauté.
Notons que ce projet des initiatives pilotes de réinsertion des ex-combattants est financé par la MONUSCO à travers le Fonds de cohérence pour la stabilisation et exécuté par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Rendons-nous dans la province du Maniema où une quarantaine d'églises branamistes se réunissent à la tribune centrale de Kindu en union de prières pour la paix dans l'est de la RDC. Selon les organisateurs, c'est aussi pour consolider l'unité de ces églises dites du message du temps de la fin. On écoute à ce sujet pasteur Amissi Mwanangoi Benjamin qui explique au micro de Florence Kizalonga.
Le plus grand objectif, c'est tout simplement pour susciter l'unité de l'Église. Parce que quand l'Église est unie, eh bien le peuple de cette nation-là sera aussi uni. Ceux qui dirigent une nation, ce sont les politiciens, mais ils sont assistés par les Églises, ici dans le sous-bassement, en prière, implorant la grâce de Dieu pour que leur pays puisse avancer comme les autres pays. Et c'est comme ça, quand il y avait l'avenir des réformateurs dans les temps anciens, c'était comme les Luther, les autres, ça changeait la donne de leur pays. Je peux vous dire même que si les églises sont unies, même les guerres sont bannies dans la nation. Je pense que nous sommes le seul pays qui a un président qui avait laissé le pays entre les mains de Dieu et que les églises devraient se saisir de cette occasion-là pour aider les autorités par nos prières à réussir certaines choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas être à mesure de réussir. Donc il y a la possibilité de trouver la paix dans un pays seulement si les églises peuvent être d'accord de se mettre ensemble. Et les églises, ce sont des personnes qui confessent la foi de leur Dieu et qui ne peuvent pas se substituer en politiciens. Parce que les Écritures disent à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César.
Dans l'actualité, sachez aussi que Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, vient de recevoir le prix humanitaire Aurora Prize 2024 pour l'éveil de l'humanité. Avec cette reconnaissance, l'initiative humanitaire Aurora met non seulement en lumière les luttes en cours en République démocratique du Congo, mais suscite également un appel mondial à l'action, écrit-il sur son compte X. Le prix Aurora pour l'éveil de l'humanité est une récompense internationale décernée pour un engagement humanitaire. Il permet la reconnaissance et l'expression de la gratitude envers les individus courageux ou les organisations qui ont une influence sur la préservation de la vie humaine et le progrès des causes humanitaires. Ce prix est décerné en mémoire du génocide arménien et pour exprimer une reconnaissance envers leur sauveur. Nous le disions dans les titres, la RDC a une grande expérience à partager en matière de la conservation des forêts, finances climat ainsi que les bénéfices accordés aux communautés locales et aux peuples autochtones. Déclaration de la ministre d'État en charge de l'environnement vendredi à New York devant les représentants des 178 États et organisations membres du Forum des Nations Unies sur les forêts. Eve Bazaïb explique que la majorité de la population congolaise vit dans la forêt et se nourrit de la forêt. Ainsi, elle a besoin de transfert des connaissances pour mener à bien son rôle de préservation de la faune et de la flore, ainsi que des réserves halieutiques. On écoute Eve Bazaïba dans cet extrait choisi par Alain Rung.
À ce jour, la RDC dispose d'une très grande expérience à partager en matière de technologie, de quantification des services rendus par nos forêts en termes de séquestration de gaz à effet de serre grâce à la tour à fruits de Yangambi, projet réalisé par l'Union européenne en collaboration avec le Royaume de Belgique. Nous avons aussi l'expérience en matière de capter les fonds de crédit carbone. La conservation des forêts et le paiement des services écosystémiques en faveur de la population de Maïndombe demeure une expérience très satisfaisante. La seule difficulté demeure le faible taux des prix de la tonne de carbone au sud, contrairement au taux fixé au nord. Cependant, l'agression terroriste que nous subissons dans notre pays depuis plusieurs décennies par les groupes armés incontrôlés et les terroristes appuyés par le Rwanda ont détruit une grande partie de la biodiversité, de son couvert forestier et toutes les ressources naturelles.
Environnement toujours. En RDC, le projet Maïndombe Red Plus, mis en place par la société Era Congo Wildlife Works Carbon, a enregistré des avancées significatives dans son processus de vente des crédits carbone. Déclaration faite par le professeur Jean-Robert Boango, directeur général de ces projets, au cours d'un point de presse tenu vendredi ici à Kinshasa. Il affirme également qu'un arbre debout peut être monétisé comme l'agrume vendu sur le marché international. Nous vous proposons un extrait de l'entretien que le professeur Jean-Robert Boango a accordé à notre collègue Tati Mapou.
Un arbre debout vaut mieux qu'un arbre abattu. Et que l'arbre debout peut être monétisé aussi bien que le bois qu'on vend sur le marché international. C'est comme ça que nous avons utilisé le processus RED+. Et avec ce processus-là, nous produisons ce que nous appelons des crédits carbone. Là, je parle de crédit carbone forestier. La probabilité qu'une forêt aurait pu être détruite en l'absence du projet et la quantité probable de cette forêt qui aurait pu être détruite est convertie en équivalent biomasse et il est proposé en vente auprès des pollueurs. Nous avons pu, par rapport à cela, produire énormément de crédits. Je crois que notre projet a produit plus que tous les autres projets dans le monde. Notre modèle consiste à pouvoir rétrocéder 25% de la valeur, soit un quart de toute la valeur brute vendue aux communautés locales. Nous partageons les bénéfices 50% avec le gouvernement.
Actualité internationale.
La coordinatrice pour le Soudan du Bureau des Affaires Humanitaires de l'ONU, OCHA, Clémentine Kweta Salami, a fait état dans la nuit des tirs à l'arme lourde à El Fasher menaçant les quelques 800 000 civils réfugiés dans les chefs-lieux de Darfour Nord au Soudan. L'usage d'armes lourdes et des attaques dans des zones densément peuplées dans les centres et les alentours d'El Fasher font de nombreuses victimes, a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur X appelant toutes les parties à épargner la ville.
L'invité.
Au Kassai oriental, la Société nationale d'électricité SNEL commercialise désormais l'énergie électrique de la centrale hydroélectrique de Toubi-Toubidi, construite par la société Ennui d'investissement minier qui exploite le diamant dans la localité de Boya, territoire de Miabi. Ces courants d'une puissance de 3 MW a été cédé à la province du Kassai oriental par cette entreprise minière. Les travaux de construction de la sous-station implantée au site PEMCO dans la commune de Bipemba ainsi que le transport de la ligne haute tension de l'énergie électrique en provenance de Toubi-Toubidi vers Mbujimayi ont pris fin depuis le mois d'avril dernier. Jean-Crispin Mukendi, directeur provincial de la SNEL au Kassai oriental, s'entretient avec Esther Dalafina.
Bonjour, monsieur Jean-Crispin Mukendi. Où en est-on avec le projet Toubi-Toubidi?
Bonjour, madame. Le projet a déjà touché à sa fin. Nous avons déjà fini. Et l'attention est en Mbujimayi depuis le 29 mars 2024.
Dire que vous avez fini, qu'est-ce que vous avez terminé concrètement? Vous avez terminé la construction de la station, la pose des poteaux, c'est quoi exactement? Pouvez-vous nous dire ça un peu plus en détail?
Pour rappel, vous savez que je vous ai dit que le projet consistait à construire un poste de réglage à Tchiboué de 35/30 et une sous-station à Bipemba de 30/15. Construire une ligne de transport qui devait transporter l'énergie de Tchiboué à Mbujimayi en passant par Boya, Miabi, Katende, Tchibombo et Kabekamwanga. Donc tous ces travaux sont complètement terminés. Il restait la phase de l'implantation des réseaux de 15 kV qui devait partir de la sous-station de Bipemba, de 15 kV jusqu'à Mbujimayi. Donc tous les travaux, tous les lots 1 et 2 sont terminés. C'est comme ça que je vous ai dit que les travaux sont déjà finis et que en fait, les clients SNEL raccordés sur les réseaux SNEL sont déjà alimentés depuis le 29 mars 2024.
Pouvons-nous savoir la puissance de l'énergie électrique que vous avez eue de Toubi-Toubidi?
Les projets ou les contrats avec la société Ennui Congo d'investissement minier, SACIM, SNEL est conclu pour 3 MW.
Cette énergie de Toubi-Toubidi vient-elle régler le problème que vous aviez avec la centrale thermique?
Évidemment, parce que vous savez qu'avec la centrale thermique, nos heures d'exploitation étaient limitées à 6 heures. Donc la centrale fonctionnait de 18 heures à 0 heures. Donc, et les coûts du carburant qui est trop excessif, ça ne permettait pas vraiment de recycler les produits que nous recevons de la dotation de la haute hiérarchie. Maintenant qu'avec les courants de Toubi-Toubidi, nous sommes à Nitro, ça résout les problèmes, un, pour les aides de fonctionnement, et deux, pour les coûts de carburant que nous n'allons pas encore subir, bien que nous avons encore une dotation de la haute hiérarchie pour le carburant de réserve au cas où il y a une perturbation sur les réseaux Hydro.
La centrale thermique va continuer aussi à fonctionner?
Et bien sûr. Pourquoi? On n'a pas mis quoi sur ça. Je vous ai dit que s'il y a une intervention à faire sur la ligne de Toubi-Toubidi, nous pouvons isoler une partie de cette ligne de 30 kV ou de 15 kV et s'en servir de notre groupe thermique. Donc le groupe thermique n'est pas en panne, il est là, il est resté comme un groupe de secours au cas où il y a des perturbations sur les réseaux de distribution du côté Toubi-Toubidi.
Et que faut-il faire pour être raccordé en énergie électrique de Toubi-Toubidi actuellement?
Les portes de la salle sont ouvertes. Il faut passer au service commercial, avoir les formatés de l'accordement. On va envoyer les agents à votre domicile, on va faire le mesurage, on va calculer les devis, vous payez les devis et la salle vous raccorde. Et c'est pas compliqué, c'est comme toujours, comme on avait en thermique, la procédure reste la même et n'a pas changé.
Oui, monsieur le directeur, la régie des eaux connaît toujours des problèmes d'énergie électrique. Avec 3 MW que vous venez de recevoir, n'est-il pas possible de donner à la régie des eaux 1 MW?
Je pense, j'estime que le chef de l'État qui veut faire que sa population puisse jouir d'électricité et de l'eau, nous le remercions parce que c'est pas son impulsion qui se fait. La régie des eaux, au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que le jour où le chef de l'État viendrait, à moins qu'une panne va encore crier de l'eau, parce que la région est alimentée 24 heures sur 24 heures. Il n'y a plus de coupes ou de transports sur des têtes avec des bidons d'eau jaune. Actuellement, la régie des eaux donne de l'eau. L'eau est en permanence sur les robinets. Il n'y a personne qui peut dire le contraire parce que, à moins qu'il y ait une panne au niveau de la régie des eaux. Quant à la SNEL, la fourniture est totale. La régie des eaux est alimentée 24 sur 24 heures.
À travers quelle cabine?
Et nous avons donné la moyenne tension. La régie des eaux n'est pas dans une cabine et la régie des eaux est alimentée en moyenne tension. Donc, elle a la tension de 15 kV à travers ces installations qui ont leur propre cabine pour alimenter leurs pompes. Donc, au niveau des SNEL et la régie des eaux, il ne se pose aucun problème d'alimentation. L'alimentation en électricité est assurée et la régie des eaux a de l'eau en permanence. Je pense que la population est maintenant soulagée du côté de l'eau et de l'électricité. Il n'y a pas de délestage.
Monsieur Jean Crispin Mukendi, je vous remercie.
Merci, madame, pour cette occasion que vous nous offrez à s'exprimer à votre micro.
Notre invité, le directeur provincial de la Société nationale d'électricité SNEL au Kassa Oriental, était interrogé par Esther Ndalafina. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Il a été coordonné par Jude Mister Bilanda et supervisé par Alain Irung. Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa a assuré la mise en onde. Merci de l'avoir écouté et de les retrouver sur notre site www.radiokapi.net.